Et nous ouvrons la parole de Dieu à nouveau dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Et nous allons relire les versets 1 à 8. Apocalypse 1, les versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et nous arrivons ce matin à ce verset 8, qui est la fin, le dernier verset de cette introduction à cette lettre de l'Apocalypse. Et nous avons déjà vu un certain nombre d'informations. Nous avons déjà vu, par exemple, que Jean va révéler des choses concernant l'avenir. Nous venons de le lire. Qu'il va ensuite donner des exhortations aux différentes églises. Nous allons le voir dans les chapitres suivants. Mais l'Apocalypse, nous l'avons aussi souligné, va encourager le peuple de Dieu à vivre pour Christ. Et il va encourager le peuple de Dieu en lui donnant une vision de l'histoire, premier mot sur la feuille, comme Dieu la voit. Et en gardant cela à l'esprit, on peut mieux comprendre pourquoi ce verset 8 vient ici conclure l'introduction. Comme j'ai dit, l'Apocalypse présente l'histoire comme Dieu la voit. Et il est donc logique que Dieu se présente lui-même comme étant le souverain, deuxième mot sur la feuille, comme étant le souverain qui est capable de maintenir toutes choses, capable d'accomplir au cours de l'histoire tous ses plans qu'il a prévus et qu'il a prévus en Christ, et de pouvoir les accomplir pour le salut de son peuple. Et cela donc nous amène à considérer ce matin la question de la souveraineté de Dieu, une question qui est souvent ignorée, qui est souvent méprisée. Et c'est pourtant une réalité essentielle, particulièrement une réalité encourageante pour les croyants et pour les églises du premier siècle, les églises auxquelles s'adresse l'apôtre Jean, qui sont sur le point de connaître des difficultés. Est-ce que Dieu est réellement souverain? Est-ce qu'il dirige réellement les choses de ce monde sur la terre, encore aujourd'hui? Ou est-ce que les choses ont échappé à son contrôle? Est-ce qu'elles sont entre les mains de l'homme ou entre les mains du diable? Beaucoup de personnes pensent que quand on regarde à ce monde, l'évidence semble montrer que Dieu ne contrôle pas l'histoire, que Dieu ne dirige pas les événements qui se passent dans ce monde que l'on connaît. Beaucoup aussi vont rejeter l'idée que Dieu puisse diriger, contrôler nos vies. Et ils affirment que nous sommes naïfs ou si nous pensons de telles choses. Et ces personnes vont aller encore plus loin. Elles vont dire que non seulement Dieu ne contrôle rien, mais que en fait personne ne contrôle quoi que ce soit. L'histoire est comme un train qui a déraillé et qui avance par chance vers un avenir incertain. On le voit cela dans les médias, on le voit ça dans les films, en particulier la science-fiction. Et certains vont même aller jusqu'à dire, mais Jésus lui-même n'a-t-il pas dit qu'il y allait avoir des guerres, des rumeurs de guerre, des persécutions, des tremblements de terre, des famines, etc. Matthieu 24, par exemple. Mais l'Apocalypse, nous l'avons souligné, nous allons le voir, va montrer que malgré les apparences, ce n'est pas Satan qui contrôle l'histoire. Ce n'est pas le diable qui contrôle l'histoire. Au contraire, Dieu est souverain sur toute chose. Et cela inclut les hauts et les bas de l'histoire, les hauts et les bas de notre propre vie. Nous lisons en Éphésiens 1, verset 11. Ceci, en lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses. Troisième mot sur la feuille. Toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous ne comprenons pas toujours la volonté de Dieu, mais c'est une volonté qui est parfaite. Et il opère toutes choses selon sa volonté, dans sa souveraineté. Dans notre expérience ici sur terre, nous allons souvent nous sentir comme Ésaïe. Ésaïe au chapitre 6, nous lisons que le roi Ozias, un grand roi, vient de mourir. Il a régné à peu près 52 ans. C'était un roi qui avait accompli de grandes choses et beaucoup les choses se passaient bien pour Israël et pour Juda pardon et pour le prophète. Mais voilà que le roi meurt et Isaïe se pose des questions comme toute personne peut se poser des questions. Que va-t-il se passer? Nous aussi, on peut se poser des questions. Quand on voit les choses qui se passent dans ce monde, quand on voit nos politiques qui ne savent pas où aller, dans quelle direction aller, quand on voit les choses, on parle de l'avancée de l'État islamique, on parle de la multiplication des conflits sur la terre, on parle de l'épidémie d'Ebola, on parle de l'opposition de plus en plus ouverte et sans frein contre Dieu. Mais Dieu lui donne cette vision. Et en Ésaïe 6, verset 1, nous lisons « L'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Dieu rappelle à Ésaïe que le vrai souverain sur l'histoire, sur ce monde, c'est lui-même, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de toute éternité. Oui, Ozias a quitté son trône, mais Dieu ne s'est pas levé du sien. Il est assis et il règne sur les affaires de ce monde. Personne ne pourra le forcer à quitter son trône. Il règne. Et les pans, l'expression « les pans de sa robe » remplissaient le temple. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Non, il remplit tout. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul roi, qu'un seul souverain sur l'histoire de ce monde. Et c'est le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu. Et donc, Apocalypse 1, verset 8, souligne la souveraineté de Dieu. Et nous pouvons le voir de trois manières. La première, tout d'abord, expression va souligner l'éternité de Dieu. C'est le quatrième mot sur la feuille. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Dieu règne de manière souveraine. Il règne puisqu'il est avant toute chose et après toute chose. Cette expression « alpha et oméga », c'est une manière de parler qui utilise des extrémités opposées pour mettre en évidence, pour souligner tout ce qui est entre ces extrémités. Pour ceux qui aiment les langues, alpha, c'est le commencement, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et oméga, c'est la fin, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et par cette expression alpha et l'oméga, on souligne ce qui est au milieu, c'est-à-dire tout l'alphabet grec. Et c'est une façon de dire que Dieu est avant et après toute chose, et il contrôle toute chose, absolument toute chose. Cette déclaration reflète une manière de parler que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Nous avons lu tout à l'heure un passage dans Ésaïe 44, mais on retrouve cela en Ésaïe 41 ou Ésaïe 48. Ésaïe 41, verset 4, par exemple. « Qui a fait et exécuté ces choses ? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel. » Le premier est le même jusqu'aux derniers âges. Et tout à l'heure, en Ésaïe 44, nous avons lu cette expression, le premier et le dernier. La souveraineté de Dieu est liée à son éternité. Et c'est ce que nous voyons ici. Et quand on parle de l'éternité de Dieu, on veut dire qu'il existe en dehors, cinquième mot sur la feuille, en dehors du temps, en dehors de l'histoire. Et en réalité, c'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui a créé l'histoire. Dieu n'a pas de passé, Dieu n'a pas de futur, il est celui qui est. Il ne change pas. Quand la Bible utilise un langage qui a fait appel à la notion du temps, elle l'utilise pour nous, pour notre compréhension, pour notre temps. Dieu n'a pas été créé, il n'est donc pas influencé par cette succession de changements que nous appelons temps. Il n'est pas influencé par cela, il est en dehors de cela. Et Pierre va par exemple l'exprimer de cette manière en 2 Pierre 3, verset 8, « Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est que toutes choses sont présentes aux yeux de Dieu tout le temps. Tout le temps, il est celui qui est. Il est celui en qui se sont confiés les croyants du passé. Il est celui en qui se confient les croyants aujourd'hui. Il sera celui en qui se confieront les croyants du futur. Et une illustration qui peut nous aider à comprendre la différence entre nous qui vivons dans le temps et Dieu qui est en dehors du temps. C'est l'illustration de la rivière, on va prendre la Saône par exemple, qui n'est pas loin. Nous sommes dans une barque, dans un bateau, et nous descendons la Saône. Et notre expérience, c'est qu'à chaque seconde, nous avons un point de vue différent. Nous avons une vision qui est différente. Nous avons une expérience qui est différente. Nous sommes à un point pendant un court instant, puis nous avançons, nous descendons, nous continuons sur la Saône, nous progressons notre voyage. Notre vision vers l'avant est limitée, nous ne savons pas ce qui est derrière le virage, derrière l'angle là-bas. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Et puis, nous perdons de vue ce que nous avons vécu il y a quelques instants. C'est notre expérience, nous progressons sur la Saône. Pour garder cette image, Dieu n'est pas dans un bateau, mais lui, il a la vue aérienne de la Saône. Il a le début, la fin, et tout ce qui est au milieu. Il sait exactement le début de la fin, il sait les détails, il connaît les dangers, il connaît les difficultés. Il est l'alpha et l'oméga. Il a commencé le temps, il va terminer l'histoire, il va terminer le temps. Tout ce qui a été créé, tout ce qui est, tout ce qui sera, est constamment présent aux yeux de Dieu. Tout, sixième mot, est sous son règne, sous sa domination, sous sa souveraineté. C'est vrai dans notre vie individuelle, Il nous regarde et il voit la totalité de notre vie, c'est devant ses yeux. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, Dieu sait, il nous voit comme ceux qu'il a donnés à Christ. Il sait et il nous voit comme étant ceux qui vont le servir de manière parfaite dans la gloire. Non pas à cause de nos mérites, mais à cause des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous voit comme nous allons être. Nous pensons que Dieu nous voit seulement au présent. Maintenant, il nous voit constamment toute notre vie à la lumière de ce qu'il a destiné, de ce qu'il a décrété pour nous en Christ. Il nous a appelés à être saints et il nous voit saints en Christ. Mais c'est la même chose pour l'histoire. Toute l'histoire est constamment présente aux yeux de Dieu. Dieu se tient au-dessus du temps, au-dessus de l'histoire, et il la guide de manière souveraine. Quelle merveilleuse nouvelle pour des croyants qui sont sur le point de connaître la persécution, la souffrance. Le Dieu de leur salut est aussi l'alpha et l'oméga, le souverain sur toutes choses. Quelle bonne nouvelle de savoir, de connaître cette réalité, l'éternité de Dieu. Mais quand on parle des attributs de Dieu, on voit que ces attributs sont connectés entre eux. Ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. On parle de connexion. Mais quand on parle des attributs de Dieu, ils sont très connectés. On va parler du deuxième attribut qui met en évidence la souveraineté de Dieu. On va voir que c'est très connecté avec le premier. Si on parle de l'éternité de Dieu, en deuxièmement, on va parler de l'auto-existence de Dieu. C'est le septième mot sur la feuille. Il parle de celui qui est, qui était et qui vient. Et plus particulièrement, celui qui est. L'auto-existence. Non seulement Dieu n'a pas de commencement, mais il n'a pas de source d'existence autre que lui-même. Et cette réalité est soulignée dans le grec, puisque la version française le reprend. Ce verset commence par « Je suis ». Je suis. Et cela devrait nous ramener à un passage où nous avons déjà entendu cette expression. Nous devrions penser au passage d'Exode, chapitre 3, où l'Éternel s'adresse à Moïse avant de l'envoyer en Égypte. Et il se révèle à lui par dans le buisson ardent. Et Moïse dit au verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » Et le terme en hébreu est ce qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire ce mot en quatre lettres qui se traduit, alors certaines versions ont le mot Jéhovah, mais c'est plus logiquement par le terme Yahvé. Et c'est basé sur le verbe « être ». C'est le nom personnel, le nom de l'Alliance. C'est lui qui envoie Moïse. Verset 14, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. » Et pour bien comprendre, nous avons une illustration de ce que cela veut dire. Et Dieu lui-même donne cette illustration dans ce passage, l'illustration du buisson ardent, de ce buisson qui ne se consume pas. Moïse voit ce buisson en flammes et il voit que le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et Dieu illustre de cette manière son auto-existence. La flamme ne se nourrissait pas du buisson. Elle brûlait d'elle-même. Le buisson n'était pas la source de l'existence de la flamme. Le buisson ne se consumait pas. Dieu ne dépend, huitième mot sur la feuille, il ne dépend de personne pour exister. Il existe de lui-même. Dans son livre « Connaître Dieu pour l'adorer », l'auteur écrit ceci, « Ce « je suis » est ce que les théologiens appellent dans leur langage technique « l'acéité de Dieu ». Ce mot se compose du latin « a » qui signifie « par » ou « de » et du pronom personnel « c » qui signifie « soi-même ». Dieu existe par lui-même et non de façon dérivée. Page 71. Un autre commentateur, Matthew Henry, en commentant sur le verset, sur le passage de 1 Corinthiens 15, verset 10, dit ceci, marque cette différence. Il dit, le croyant a le privilège de pouvoir dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais seul Dieu peut dire, je suis ce que je suis. Il y a des implications pour cela qui découlent de cette réalité de l'auto-existence de Dieu. La première, c'est que Dieu se suffit à lui-même. Neuvième mot sur la feuille. Il se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit en dehors de lui-même. Il n'a pas de besoins qui ne sont pas satisfaits. Nous, par contre, parfois, nous sommes frustrés. Dieu ne l'est pas. Il n'a pas besoin d'aide. Il ne sera jamais codépendant. Il ne vit que par lui-même. Et c'est réconfortant de savoir que Dieu n'a pas besoin de nous. S'il nous appelle, s'il nous amène à faire certaines choses, il n'a pas besoin de nous pour exister. Il est autosuffisant. Il a tout ce dont il a besoin. Et il l'a depuis toujours. Une autre implication, bien sûr, c'est que Dieu ne change pas, dixième mot sur la feuille. Il ne change pas. Il ne peut pas changer. Lui qui est éternel, qui est en dehors du temps. Il n'est pas impliqué dans des circonstances changeantes. Il n'est pas influencé par les circonstances changeantes qui le pousseraient à changer. Il n'y a rien en lui qui le pousse à changer. Il n'y a rien en dehors de lui qui pourrait l'amener à changer. Paul le dira d'une autre manière en Romains 11, verset 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. » Et puisque sa vie est entièrement de lui-même, Dieu qui est, qui était et qui vient, a toujours été le Dieu qui est, qui était et qui vient. Il ne change pas et c'est aussi une bonne nouvelle pour les chrétiens du premier siècle et pour nous encore aujourd'hui. On peut se réjouir de cette réalité que Dieu ne change pas. Il ne change pas, par exemple, dans son caractère, onzième mot sur la feuille. Il est toujours le Dieu qu'il a toujours été et qu'il s'est révélé dans sa parole. Il sera toujours le Dieu plein de sagesse. Il sera toujours le Dieu puissant. Il sera toujours le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu bon, le Dieu vrai. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, comme nous le faisons les dimanches matins, nous voyons comment Dieu s'est révélé dans le passé à Isaïe, à Jérémie, à David, ou à Daniel, ou aux apôtres. Et il se révèle de la même manière à nous. Il ne change pas. Nous ne sommes pas comme ça. Nous changeons. Et très souvent, malheureusement, nous changeons dans le mauvais sens. Notre attitude va changer en fonction des circonstances. Parfois, certaines personnes, on ne sait jamais comment elles vont nous recevoir, tellement leur humeur est changeante. Notre appréciation d'une personne va changer, parfois sans véritable raison. Mais Dieu ne change pas. Il ne change pas. Certaines personnes vont aller contre cela et dire que ce n'est pas ce que la Bible dit. Ces personnes vont dire que Dieu change, par exemple, à l'égard d'un pécheur qui se repent. Avant, ce pécheur était sous la colère de Dieu. Maintenant, il est réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et pour eux, cela veut dire que Dieu a changé. Est-ce que Dieu a vraiment changé? Non. Dieu ne change pas. Dieu réagit face au péché. Il réagit face à l'idolâtrie. Il réagit face à la foi. Et il répond toujours de la même manière. Il ne change pas. Il répond toujours de la même manière. Et celui qui s'approche de lui par la foi en Jésus-Christ peut s'approcher avec cette assurance que Dieu l'accepte. Il ne va pas décider du jour au lendemain de changer. Non, celui qui vient à lui par la foi en Christ peut compter sur sa réponse, qui sera toujours la même. Il accueille tous ceux qui viennent à lui par le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il l'a révélé ainsi dans sa parole et ne va pas revenir sur sa parole. Il ne change pas. Car le caractère de Dieu ne change pas. La vérité concernant Dieu ne change pas. L'homme va dire des choses parfois qu'il ne pense pas réellement. Son point de vue va changer. Aujourd'hui, il ne va peut-être plus défendre certaines idées qu'il a défendues dans le passé. Les paroles de l'homme sont instables. Les paroles de Dieu ne le sont pas. Elles demeurent. Elles sont vraies pour toujours. Elles expriment sa pensée, sa vérité qui ne change pas. Aucune circonstance ne peut amener Dieu à remettre en question ce qu'il a dit. Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Le caractère de Dieu ne change pas, la vérité de Dieu ne change pas, les desseins de Dieu, 13e mot sur la feuille, ne change pas. 12e, c'était la vérité, pardon. 13e mot sur la feuille, les desseins de Dieu ne changent pas. Nos plans changent très souvent, simplement parce que nous ne connaissons pas l'avenir et nous nous adaptons à l'avenir. Nous ne maîtrisons pas l'avenir. Mais Dieu le maîtrise. Dieu connaît toutes choses. Et son plan est un plan qui ne change pas. Ésaïe 46, verset 9, fin du verset 9 et le verset 10. « Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Cela inclut bien sûr les desseins de Dieu pour le Seigneur Jésus, 14e mot sur la feuille. Dieu a décidé d'exalter son Fils, de le couronner. Nous l'avons lu par exemple dans le psaume 2. Et nous connaissons ce passage bien de Philippiens 2, les versets 5 à 10, où nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié, il s'est rendu semblable à nous en devenant homme. Mais nous lisons que le Père va l'élever et que son nom sera au-dessus de tout autre nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce dessein ne change pas, il va arriver. Dieu a décrété que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, serait le seul sauveur pour les pécheurs perdus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être délivrés de la colère à venir, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul agneau de Dieu qui a été immolé pour les péchés. Dieu l'a décidé. Et il va accomplir son dessein. Mais en parlant du dessein de Dieu, cela inclut aussi, bien sûr, les desseins qu'il a pour son peuple. 15e mot sur la feuille. Pour son peuple qui est en Christ. Paul écrit en Romains 8, verset 20, « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Voilà le dessein pour son peuple. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce serait une erreur pour nous de chercher à vivre comme le monde. Non, Dieu nous a destinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes déjà, si nous sommes unis à Christ, nous sommes déjà séparés du monde. Et son Esprit nous transforme jour après jour. Nous ne sommes plus du monde et le dessein de Dieu va s'accomplir et va nous rendre semblables à l'image de son Fils. Le salut qu'il nous a accordé en Christ par la grâce, par la foi, est un salut qui est éternel. Cette vie nouvelle que nous avons en Christ est une vie éternelle. Personne ne peut nous arracher de la main du Père. Quand Dieu pardonne en Christ, il dit, comme il l'avait promis en Jérémie 31, qui est repris par Hébreux 8, il dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Comment est-ce que nous pouvons avoir l'assurance du salut? En particulier en nous rappelant que les desseins de Dieu ne changent pas. Et les desseins pour son peuple ne changent pas. Le pardon qu'il accorde est un pardon qui est éternel. Mais il y a aussi une autre réalité concernant les desseins de Dieu. S'il ne change pas concernant le Seigneur Jésus-Christ, s'il ne change pas concernant le peuple de Dieu qui est en Christ, ses desseins ne changent pas non plus concernant les méchants. 16e mot sur la feuille. Et l'Apocalypse va montrer que Dieu va juger les pécheurs dont les péchés ne sont pas pardonnés. Et c'est malheureusement une réalité qui n'est pas très populaire. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, on dit qu'il ne faut pas parler de cela, de la colère de Dieu, du jugement, parce que les gens ne vont pas accepter cette idée. Et on va entendre des messages qui vont minimiser le jugement de Dieu contre les pécheurs. Et pourtant, Dieu a décrété qu'il va juger le pécheur. Et cela va arriver. Sa colère va s'éclater contre tous ceux qui ont méprisé son Fils, qui ont rejeté le Sauveur. Déjà dans le livre d'Exode, nous lisons en Exode 34, verset 7, « Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Il va le punir. » Et nous allons le voir dans cette lettre de l'Apocalypse. Et ceux qui auront rejeté le Seigneur Jésus-Christ pendant cette vie ne pourront pas lui demander de changer d'attitude à leur égard lorsqu'ils seront devant sa face. Ils ne pourront pas lui dire « Montre-nous ta grâce, sois miséricordieux envers nous. » Non. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Dieu punira ceux qui ne sont pas cachés par la justice parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a une sainte haine du péché, une haine qui est éternelle. Et sa punition sera éternel. Le dessein de Dieu ne change pas. Que ce qu'il concerne son Fils, qu'il concerne le peuple qui est en Christ, ou qu'il concerne les méchants, ceux qui sont en dehors de Christ. Dieu ne change pas. Mais une troisième chose, pour souligner la souveraineté de Dieu, en parlant son éternité, en parlant de son auto-existence, son auto-existence, la troisième chose, il parle de sa toute-puissance, 17e mot sur la feuille. Dieu exerce une puissance et une autorité souveraine pour diriger toutes choses en tout lieu et à tout moment. Il est le Seigneur, il a le droit d'agir, il a le droit de commander sur toute la création, il a la puissance d'agir, il a la puissance de faire en sorte que ses commandements soient obéis, il a la puissance aussi de punir ceux qui n'obéissent pas. Il a le droit, 18e mot sur la feuille, il a le droit de faire ce qu'il veut avec ce qu'il a créé, il possède ce qu'il a créé. Et il dispose comme il veut de ce qu'il possède. Il y a beaucoup d'illustrations de la toute-puissance de Dieu qui contrôle toutes choses. Et une d'entre elles que nous connaissons bien, c'est l'histoire de Joseph, le fils bien-aimé de Jacob. Beaucoup, en lisant cette histoire, vont dire c'est une histoire qui est une succession de malchance, de désastres, une histoire remplie d'injustice. Et il y a beaucoup d'injustices. Et nous connaissons l'histoire. Joseph part pour accomplir une mission de son père, mais ses frères le haïssent et ses frères vont le vendre comme esclave. Et là, ça devient pire. Joseph, qui est pourtant fidèle et qui honore Dieu, est faussement accusé il est jeté en prison. Et il va passer sa jeunesse en prison. Mais Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, et il le fait sortir de prison. Il lui donne une très grande responsabilité dans le pays. Il est, après Pharaon, sur le trône du pays d'Égypte. Et en tout cela, Dieu accomplissait son œuvre. Et c'est un encouragement pour nous. Dieu accomplit son œuvre, même dans nos circonstances où on peut se demander, mais comment est-ce que Dieu peut contrôler cela ? Mais tout comme Dieu préparait Joseph pour accomplir son rôle, Dieu nous prépare aussi pour notre rôle de le servir, non seulement ici-bas, mais dans la gloire pour toujours. Il dirige toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et Dieu utilisait Joseph pour accomplir un dessein plus grand. Jacob et toute sa famille allaient entrer, venir en Égypte et être nourris. C'est ce que Joseph lui-même va expliquer à ses frères en Genèse 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu est tout-puissant. Rien de ce qui arrive dans le monde ne peut le prendre par surprise et rien ne lui est impossible. Il a le droit de faire ce qu'il veut et il a le pouvoir, 19e mot de faire sur la feuille, de faire ce qu'il veut. Il est souverain. Et pour nous qui sommes au Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette merveilleuse promesse en Romains 8, verset 28, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle ? N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle pour ceux qui passent par des souffrances, par des difficultés, par des situations difficiles ? Comment est-ce que je peux faire face à l'incertitude ? Comment est-ce que je peux faire face aux injustices que je vois dans ce monde, aux difficultés ? Et le monde, avec ses philosophies existentialiste, va dire c'est sans espoir, il n'y a aucun sens à cela. Alors le monde va dire la vie est suffisamment courte, alors profitez un maximum pendant le peu de temps que vous êtes dans ce monde. Mais la réalité pour le croyant est totalement différente. Nous voyons effectivement que ce monde, que cette vie a été polluée par le péché, mais nous voyons Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant. Et la vie a un sens. Dieu ne change pas. Son amour ne change pas. Dieu est souverain sur toute chose. Et il contrôle et il dirige toute chose. Il est éternel. Quelle est notre réponse face à la souveraineté de Dieu ? Je vais lire un passage de ce livre « La souveraineté de Dieu » de Pink. Et l'auteur dit ceci. La souveraineté divine n'est pas la domination d'un despote tyrannique, mais l'activité de la volonté de celui qui est doué d'une sagesse et d'une bonté infinie. En raison de sa sagesse infinie, il ne peut se tromper, et en raison de sa sainteté infinie, il ne peut agir mal. Là se trouve la grande valeur de cette vérité. Comprendre le caractère irrésistible et irréversible de la volonté de Dieu me remplit de crainte. Mais mon cœur se réjouit quand je prends conscience que Dieu désire seulement mon bien. Et puis plus loin, quelle devrait être notre attitude face à la souveraineté de Dieu ? Une attitude de crainte respectueuse, d'obéissance implicite, de soumission et d'acceptation sans réserve. Mais ce n'est pas tout. Reconnaître la souveraineté de Dieu et prendre conscience que ce souverain est mon Père, en Christ, devrait me bouleverser et me pousser à m'incliner devant lui et à l'adorer. 20e mot sur la feuille. En tout temps, je dois dire, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et pour adorer Dieu, il faut que Dieu se révèle, et Dieu se révèle. Il se révèle ici, nous lisons, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Il se révèle, il parle. Mais nous savons aussi, nous lisons par exemple dans les premiers versets de la lettre aux Hébreux, que Dieu se révèle par le Fils. Et comme nous l'avons déjà dit, nous allons voir que la lumière maintenant va se focaliser sur le Fils, sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est le 21e mot sur la feuille, le Fils. La lumière va se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, un peu plus loin dans ce chapitre, versets 17 et 18, va reprendre cette formule. Je suis, verset 18, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et mais déjà en Apocalypse 1, verset 8, quand le Père parle et dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Déjà on entend la voix du Fils qui dit, je suis. Il l'a déjà dit dans son ministère terrestre, rappelez-vous, c'est Jean lui-même qui va le citer dans son évangile. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le cep. Et la lumière va se diriger, comme j'ai dit, dans le reste de l'Apocalypse, sur le Fils, qui va souligner qu'il est un avec le Père, qu'il est souverain, lui aussi, qu'il est tout-puissant et qu'il règne, tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Et il règne pour son peuple. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il était présent quand l'Éternel s'est adressé à Moïse, en Exode 3. Rappelez-vous, nous lisons que en Exode 3, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. C'est une manière de décrire la révélation du Fils avant son incarnation. L'expression « l'ange de l'Éternel ». Et avant son incarnation, Dieu le Fils parle et révèle le Père. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu le Fils parle et révèle le Père. Comment est-ce qu'on peut connaître celui qui est ? Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu qui est tout-puissant ? Par la foi en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un autre « je suis » que je n'ai pas cité, qui est Jean 14, verset 6. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc, le Père qui est aussi, qui se donne cette bénédiction, cette grâce et cette paix, de la même manière qu'il la donne avec l'Esprit et avec le Fils. Comme nous avons déjà dit, le Père et l'Esprit vont maintenant se retirer en quelque sorte. Et toute la lumière va se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ tout au long de ce livre. Mais Dieu se révèle. Et il se révèle comme étant celui qui est souverain. Et pour nous, c'est un réconfort. Pour l'Église du premier siècle, c'est un réconfort. Pour nous aussi, c'est un réconfort de savoir que ce monde n'est pas en train de suivre une voie sans direction, même si parfois cela en a l'air. Non. Au-dessus de l'histoire de ce monde, il y a un souverain, quelqu'un qui règne, quelqu'un qui accomplit ses desseins. Quelqu'un qui est en dehors de l'histoire et qui a décrété certaines choses et qui accomplit ses desseins, qui accomplit toutes choses selon sa volonté. C'est vrai dans l'histoire en général, mais aussi c'est vrai dans notre vie personnelle. Que nous puissions trouver le réconfort dans cette réalité de savoir que Dieu règne. Dieu règne et il se révèle dans le Seigneur Jésus-Christ qui lui aussi va montrer qu'il règne, qu'il est sur le trône et qu'il dirige toutes choses selon le dessein qui a été prévu et qui a été décidé depuis toute éternité. Que Dieu nous donne de trouver le réconfort dans cette réalité, qui nous aide à vivre à la lumière de cette réalité, à ne pas être déboussolé ou perdu devant les situations dans lesquelles nous nous trouvons, mais à nous rappeler, comme Ésaïe s'est rappelé, que même si les rois de ce monde meurent, disparaissent, il y a au-dessus de ce monde, au-dessus de l'histoire, un roi qui règne, qui ne quittera jamais son trône et qui règne pour toujours. Que Dieu nous donne de trouver le réconfort dans cette réalité et qu'en retour, nous nous courbions dans l'adoration et que nous reconnaissions, que nous disions ces paroles, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen.